renverser la table et la redresser différemment.
Faire face aux codes et aux normes alimentaires qui rythment notre quotidien, qui empoisonnent notre vie et qui abîment nos corps.
Réussir à nous détacher des injonctions, des pulsions, des addictions, des interdictions. Alors même que la nourriture est au centre de nos vies, c'est nous qui avons décidé qu'il fallait la surveiller et s'en méfier.
Pourquoi et comment un pauvre petit bout de chocolat en fin de repas est-il devenu coupable ? Remplir nos assiettes et vider nos verres n'a jamais été dénué de sens.
Hommes comme femmes, jeunes comme vieux, se nourrir fait partie de nos vies et de nos psychologies, et on finit par partager nos angoisses en même temps que nos repas.
Les femmes, encore elles, se retrouvent en première ligne alors qu'on voulait les confiner au fourneau. Même nos assiettes et nos modes d'alimentation deviennent stéréotypés.
Le genre, encore lui, s'impose dans nos repas et dans nos placards, souvent sans notre consentement.
Alors aujourd'hui, que faire avec la nourriture ?
Et si, finalement, on arrêtait de jouer avec et qu'on se penchait sur ce qu'elle dit de nous et de nos préjugés, si profondément ancrés ? La nourriture est partout, omniprésente, on l'a bien compris. Si l'on mange 3 fois par jour, ce n'est pas vraiment pour rien, après tout. Mais à table, comme à la cuisine, les différences font jour, et face à la nourriture, nous sommes loin d'être tous égaux, et ce sont très souvent les femmes qui trinquent. Louise Meusel et Nils Hollenstein ont recueilli des témoignages édifiants, et Audrey Sénécal nous éclaire sur ces slogans qui influencent nos régimes alimentaires.
Se nourrir pour vivre.
Pour ceux qui ont les moyens aussi, ça va être aussi du plaisir aussi de manger.
Plaisir et santé.
Des fois on mange pas, des fois on mange. Et c'est plus souvent non manger que manger.
La convivialité, le partage et la qualité.
Pour les uns une nécessité, pour les autres une félicité. Manger, c'est vivre. Et très souvent, c'est vivre avec joie. Croquer, dans une tablette de chocolat, dans un fruit bien mûr, dévorer un burger saignant. Les plaisirs sont variés, les injonctions aussi.
Mange au moins 5 fruits et légumes par jour.
Un truc très très bon, et bon pour ma ligne.
0% de sucre ajouté, 0% de matière grasse, un plaisir intense.
Moi pour mon cabillaud, je rajoute un petit jus aux herbes.
Comme Marie ?
Et je le dors au four.
Ah, pas comme Marie. Ah. Elle le cuit en papillote.
Délicieuse.
Comme moi. Comme Marie.
Les gourmands ont enfin une bonne excuse.
Les injonctions contradictoires nous pressent tous les jours. La nécessité devient une prise de tête. Nos plaisirs culpabilisants. Mais tout le monde n'est pas culpabilisé de la même manière.
Je mange beaucoup hors des repas. Je sens que pour mon physique, ce n'est pas bon. C'est bon pour ma tête, ce n'est plus un sentiment que j'ai dans ma tête. Je me sens coupable parce que je fais du mal à mon physique.
Les femmes doivent prendre soin d'elles, mais perdre du poids pour les autres. Manger sain, ne pas se laisser aller, tout en gardant le sourire. Et ce n'est pas que d'elles-mêmes que les femmes doivent prendre soin. Encore 45% des femmes se consacrent tout le jour à la garde des enfants, des personnes âgées ou handicapées. Prendre soin des autres, c'est aussi se sentir coupable quand on ne remplit pas ce rôle parfaitement.
Un père, ça fait pas tout ce qu'une mère nous fait. Un père, ça tricote pas les pulls verts, par exemple.
Ouais.
Ça fait pas la cuisine. Enfin, quelquefois, mais après, ça fait pas la cuisine. Ouais.
J'essaye de tout simplement de faire ce qui me semble le mieux pour mes enfants.
Mes petits-enfants, ils mangent tout. Mon fils aussi et ma belle-fille aussi.
Des choses maison, des gâteaux maison. On va limiter tout ce qui vient de l'extérieur et on va essayer de faire nous-mêmes les choses.
Je fais un gâteau, une tarte, ça c'est leur plaisir.
Des hamburgers maison, des frites maison, des gâteaux maison, voilà. Donc ça va être plutôt ça, des choses bonnes mais à la maison et pas forcément dans la grande distribution. Ça.
Prendre soin des autres, ça veut aussi dire se sentir coupable lorsqu'on prend soin de soi-même.
Il y a des biscuits allemands qui sont très très bons.
La tarte flambée avec des lardons fumés, alors que la recette dit des fumés autrefois, et maintenant plus personne n'en fait, mais des fumés.
Le sucré le soir, voilà, tout ce qui est sucré et le soir, avant de me coucher. très coupable.
Dans les moments où j'ai mangé mes règles ou quelque chose comme ça, et c'est pour ça qu'il m'aide.
Parce que c'est excessif, voilà. Ça peut des fois être un peu compensé, peut-être des fois des journées difficiles, donc voilà.
C'est coupable, c'est parce que je suis la seule. Les autres sont beaucoup moins difficiles et peut-être ont moins la mémoire du goût que moi.
Compenser une journée difficile, se réconforter pendant les règles, apprécier des souvenirs que d'autres ont oubliés depuis longtemps. Est-ce que ce ne sont pas des besoins qu'on a toutes et tous? Est-ce que le petit plaisir qu'on s'offre de temps en temps ne sera pas beaucoup plus savoureux sans tous ces voix qui nous jugent tout le temps?
Ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré. Pour bien grandir...
Oh là là, c'est haut.
Mange au moins 1, 2, 3, 4, et 5 fruits et légumes par jour.
Pour être en forme...
Nous connaissons tous ces slogans. Mais savez-vous d'où ils viennent et comment ils ont été élaborés? Avant la fin des années 90, la nutrition est un thème marginal en santé publique. Elle ne fait pas l'objet d'une programmation ni d'un financement spécifique. Mais en 2000, les autorités sanitaires commencent à s'intéresser à la nutrition et le bilan n'est pas bon. L'INSERM pointe une évolution inquiétante du surpoids des enfants en France. Dans le même temps, à l'international, l'OMS alerte sur l'épidémie d'obésité. Le gouvernement veut alors encourager les Français à adopter de meilleures habitudes alimentaires. Il confie au ministre de la Santé l'élaboration du premier plan national Nutrition Santé, le PNNS. Mais la tâche s'avère complexe. Il faut, pour ne pas braquer le consommateur, formuler des recommandations nutritionnelles pragmatiques, atteignables et mesurables. Ainsi, on n'interdit pas le jus de fruits, classé dans les boissons sucrées, mais on invite à limiter sa consommation à un verre par jour. Il faut aussi ménager les industriels qui font pression sur les scientifiques pour défendre leurs produits.
Produits laitiers sont nos amis pour la vie.
En 2001, le programme est enfin lancé sous le nom Manger Bouger. 20 ans plus tard, les Français connaissent par cœur tous les slogans de la campagne, mais leurs habitudes alimentaires ne se sont pas drastiquement améliorées. Et surtout, les inégalités n'ont pas disparu. D'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, les Français ayant arrêté leurs études en primaire ou au collège boivent jusqu'à 2 fois plus de soda que les PAC plus 4 et mangent 2 fois moins de fruits et légumes. L'étude révèle aussi que l'assiette des femmes est globalement plus équilibrée que celle des hommes. Sont-elles plus friandes de légumes que ces messieurs? Plus réceptives aux messages de santé publique? Ou plus soumises aux diktats des apparences?
J'ai une tête, moi. Je ressemble à rien aujourd'hui.
Ça, tu l'as dit. Tu connais Père de lait?
Non. C'est quoi?
C'est délicieux.
On pourrait presque croire que si les femmes sont plus réceptives à ce genre de messages, c'est parce que...
C'est trop bien ce podcast, mais ça manque d'un truc, je sais pas, d'un peu de profondeur historique, tu trouves pas?
Mais oui, parce qu'en fait, ça remonte à très loin ces histoires de culpabilisation de la femme par rapport à ce qu'elle mange. D'ailleurs...
Attendez, mais pardon, mais vous êtes qui au juste?
Moi, c'est Clémence.
Et moi, c'est Mathaï.
On est des spécialistes des mythes.
On écoutait le podcast et on trouve qu'il y a pas mal de similarités entre ce qui est dit et l'imaginaire collectif. Après, désolé, on vous laisse reprendre si vous voulez.
Non, mais allez-y, maintenant que vous êtes là, on vous écoute.
Alors, par exemple, cette histoire d'alimentation genrée, ça me fait penser à l'histoire de Charybde. Dans la mythologie grecque, c'est le nom d'un monstre marin qui ressemble à un immense tourbillon. Alors, dans l'Odyssée, Circé la sorcière met en garde Ulysse qui s'apprête à croiser sa route. Ulysse, l'autre écueil que tu verras est plus bas, très près de l'autre et à la portée des flèches. À son sommet s'élève un figuier chargé de feuilles, et au-dessous de ce figuier est la formidable Charybde qui engloutit sans cesse l'onde noire. 3 fois par jour, elle la rejette, et 3 fois encore, elle l'avale en poussant des mugissements effroyables. Il ne t'arrive donc point de passer en ces lieux lorsque Charybde absorbe les eaux de la mer, car nul ne pourrait t'arracher à la mort, pas même le puissant Neptune. Et en fait, avant d'être un monstre marin, Charybde était une jeune déesse avec un très gros appétit. Un jour, elle a la mauvaise idée de taper un croc dans le troupeau de bœufs d'Hercule. Mal lui en a pris, car le père d'Hercule, c'est Zeus, le roi des dieux. Et comme il n'apprécie pas trop qu'on embête son fiston, Il envoie la déesse insatiable au fond de la mer et depuis, c'est des marins qu'elle mange.
Donc en fait, les femmes n'ont jamais pu manger en paix et depuis l'Antiquité, on nous punit si on ose manger à notre faim. T'as un petit creux, boum, punition divine, un vieux monsieur macho et hyper vénère te transforme en monstre boulimique.
Et même au passage du polythéisme au monothéisme, on a gardé la même formule.
C'est vrai, il y a un péché originel, forcément c'est lié à la bouffe et forcément c'est une femme qui le commet. Dans l'Ancien Testament, Adam et Ève étaient en train de chiller au jardin d'Éden, ils vivent leur meilleure vie, mais interdiction de toucher à un arbre en particulier. C'est là qu'un serpent se ramène, embobine Ève et l'incite à croquer le fruit de l'arbre interdit. Et Adam, qui a zéro personnalité, fait tout pareil. Autant dire que Dieu, c'est comme Zeus. Quand il découvre l'affaire, il n'est pas très joie.
Et en plus, Adam est vraiment pas solidaire de sa pote. Il la balance direct.
Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné du fruit de l'arbre, et ainsi j'ai mangé. Seigneur, c'est de sa faute à elle.
Femme, qu'est-ce que tu as fait?
Donc c'est même pire que l'histoire de Charybde, parce que là, la femme qui n'obéit pas aux injonctions patriarcales et croque dans le mauvais aliment n'est pas juste punie, elle condamne l'humanité tout entière avec elle.
Dites donc, c'est optimiste chez vous. Merci pour votre intervention en tout cas, j'aurais pas pensé. Ceci dit, avant de pouvoir manger, il faut généralement cuisiner, et là aussi, on voit que les rapports de force sont déséquilibrés. Les femmes au fourneau, certes, mais pas à un trop haut niveau non plus. Les chefs étoilés sont souvent des hommes, alors la femme d'aujourd'hui a-t-elle encore une place dans la cuisine ?
Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute.
Nous allons commencer par une brouillade de cèpes au cerfeuil.
J'ai besoin de retrouver le goût des choses.
Un filet de bœuf en croûte de sel.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter ?
Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez ? Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne.
On vous fait des misères ces temps-ci, à moi aussi.
Les saveurs du palais, un film de Christian Vincent où Catherine Fraud incarne Danielle Mazet-Delpeuche, la première femme à avoir été chef de cuisine à l'Élysée. Mais bon, la plupart du temps, quand on pense cantine, on pense femme. Et en première ligne, cette dame à la cantine. Même avec des épinards dans l'assiette, elle pouvait vous arracher un sourire. Quentin Solé et Geoffrey Vasseur sont allés voir une des cantinières du Crous pour parler de son métier trop peu considéré.
Quoi de mieux que d'interroger celle qui marque notre quotidien depuis 2 ans. À l'université de Strasbourg, peu connaissent son prénom, mais toutes et tous ont retenu ses larges lunettes rectangulaires et son sourire d'ange qui ne la quitte jamais. Caroline Scherer, 58 ans, assure le poste de serveuse caissière de l'annexe du resto universitaire Paul Appel. Et peu importe qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle respire toujours la joie de vivre. Bon Quentin, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à l'annexe ?
Des crusty tenders à la milanaise. On y va ?
Bonjour. Voilà, s'il vous plaît.
Bon appétit.
Merci beaucoup.
Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines.
Je travaille au Crous depuis 6 ans et je m'occupe principalement de l'annexe. Mes parents avaient un restaurant à Aubernais et toute petite, j'ai dû aider et faire des petites tâches quand mes parents avaient besoin. C'était comme ça, les enfants de restaurateurs. Donc, presque naturellement, je suis restée dans cette branche. Je n'ai connu que ça. J'ai fait un apprentissage pendant 2 ans, un CAP de serveuse, employée de restaurant, on dit aujourd'hui. À l'époque, c'était serveuse. Et après, j'ai travaillé dans différentes entreprises, dont l'ancienne douane, une grosse maison sur Strasbourg. En bout de course, il fallait que j'aie aussi mon propre restaurant que j'ai eu pendant 13 ans.
Une fois passé les concours de la fonction publique, Caroline intègre le Crous de Strasbourg. L'objectif, se consacrer presque entièrement au service qu'elle assure tous les jours.
Alors, je fais 7h-15h. Quand j'arrive le matin, je fais tout ce qui est petite préparation. Tout ce que je vais vendre à midi, je dois le mettre en place. Ensuite, après, je fais tout ce qui est encore rangement, ménage, tout ce qu'il y a commande. Pour moi, c'est tellement naturel que je ne saurais même pas vous l'expliquer exactement.
Ce n'est pas parce que Caroline travaille dans la restauration qu'elle est passionnée par la cuisine. Bien au contraire.
Alors, je ne sais pas cuisiner, ça je l'avoue. Mais je sais ce qui est bon. Je sais manger et j'adore la nourriture. J'ai le bonheur d'être mariée depuis 36 ans. Comme ça, vous savez vraiment tout de moi. Et j'ai un mari qui me fait une cuisine extraordinaire. Donc, j'ai ce bonheur de ne pas avoir à toucher à la cuisine.
Dès lors qu'on passe les portes de l'annexe, la bonne humeur de Caroline est au rendez-vous. Il peut même arriver qu'elle vous surnomme mon chéri.
Oui, l'étudiant, pour moi, ce n'est pas un étudiant, c'est un client. Le client, pour moi, doit être heureux de venir à l'endroit où je travaille. Il peut y arriver qu'un jour il n'y ait pas de scie ou ce ne soit pas cuisiné exactement comme la dernière fois et ainsi de suite. Si moi je ne fais pas ça, il partira avec cette mauvaise note de dire « c'était pas terrible, on ne reviendra plus ». Moi ça me fend le cœur. Je leur donne des petits conseils, un peu de mamie on va dire entre guillemets. Ils aiment ça. L'interaction avec les gens c'est ma vie. C'est ma vie.
Dans une profession où les inégalités de genre ont toujours existé, cette femme au tempérament de feu a lutté pour se faire une place.
De mon époque, les serveurs, dans mon métier, c'était majoritairement des hommes. Les serveuses, c'était plus réservé à des petits restaurants. Donc dans ce métier, les femmes ont eu plus de mal à rentrer et avoir le même poste, grade que les hommes. Le personnel était payé au pourcentage. Plus on faisait, plus on travaillait, plus on était payé. Ce qui faisait que c'était équilibré. Une femme pouvait avoir exactement le même salaire qu'un homme. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de serveurs-caissiers. Je regrette énormément. Parce que bien sûr qu'un homme veut tenir ce poste et être tout aussi agréable, bien sûr que oui.
Après plus de 40 ans dans la restauration, Caroline affirme qu'elle restera au Crous jusqu'à sa retraite. Elle continuera donc à nous transmettre son savoir et sa bonne humeur.
Théodore Laurent, lui, nous présente une ex-détenue dont le passage derrière les fourneaux l'a sauvée.
Je m'appelle Laurie, j'ai été incarcérée en 1985 pour des problèmes de drogue. J'ai été incarcérée à la maison d'arrêt de Nice, où je suis restée un an avant le procès. J'ai intégré une cellule avec des places de 5 et nous étions de 4 et nous étions 5. Une personne dormait par terre. Pendant quelques semaines, je suis restée en tant que détenue, mais restée enfermée toute la journée, 5 dans une cellule, c'était chargé. Donc j'ai demandé à travailler. Une des personnes qui s'appelait Brigitte, faisait le service. Donc, je l'ai rejoint et j'ai obtenu un poste pour servir ce qu'on appelle le repas, c'est la gamelle. Deux fois par jour, le matin, le petit déjeuner, nous arrivions avec un chariot et avec les louches, nous servions les détenus. Il y avait un autre moyen aussi, c'est de cantiner. Cantiner, c'est commander à la maison d'arrêt par la cuisine et en payant ce qui était prélevé sur le compte que chaque détenu a dans les bureaux. Donc, soit par des envois de leur famille, soit si les détenus travaillaient. Petit à petit, le contact avec les détenus s'est bien passé, avec ce que l'on appelle les matones aussi, et nous avons réussi à créer un lien. Petit à petit, on nous a laissé de plus en plus la porte de la cellule ouverte, et la confiance entrant, l'accès tous les jours à la cuisine. Et dans la cuisine, voilà, ça pouvait être aussi bien nous faisions des gâteaux et c'était toujours différent, tout dépendait de ce que la cuisine pouvait nous donner pour cuisiner. Donc c'était toujours aléatoire, mais on pouvait même aussi, avec les restes de ce qu'il y avait du repas du midi ou du soir, garder quelques éléments et les améliorer pour les détenus et pour tout le monde. C'était un tout, mais tout était relié avec la cuisine. Déjà aussi, le fait de pouvoir servir avec respect les détenus et dans le calme, c'était déjà. Et la cuisine, ça a permis d'avoir une liberté totale du matin jusqu'au soir, après être passée en cuisine et que tout le monde avait goûté ce que je faisais, une liberté totale du matin jusqu'au soir. Ma co-détenue avec qui je partageais mon travail et moi-même, nous étions du matin au soir libres de rentrer et de sortir. La porte était grande ouverte, les détenus qui étaient avec nous ne sortaient pas, mais profitaient de ne pas avoir cette porte fermée. Donc nous pouvions aller aussi bien dans la cour que rester justement dans la cuisine et de passer du temps à préparer des repas sympathiques. Au bout d'un an passé à la maison d'arrêt, le procès a eu lieu et le verdict, c'était 10 ans avec 6 ans ferme. Donc, normalement, dès que le procès est passé et terminé, c'est-à-dire les détenus sont dirigés dans des prisons. Vu le calme qui a régné sans bagarre pendant un an, pendant presque un an, quand nous travaillions au service, mon amie Brigitte et moi-même, on nous a proposé de ne pas être transférés, ce qui a été, j'avoue, un gros avantage. Tout le monde y a trouvé son compte. La maison d'arrêt a vécu dans le calme. Les détenus étaient contents. Des avantages, des petites attentions. Et moi-même, de ne pas être transférée et d'être restée sur place, c'était parfait. Donc, j'ai été libérée 3 ans après. C'est-à-dire que j'ai eu 3 ans de remise de peine pour bonne conduite. Et dès ma sortie, j'ai retrouvé mes amis et j'ai continué mes bonnes habitudes de faire de la cuisine pour le partage avec mes amis ou ma famille. Ce n'est pas régulier tous les jours, mais je cuisine toujours avec autant de cœur.
Les femmes à la cuisine, c'est aussi et souvent une affaire d'héritage. Les recettes, c'est une affaire de famille et elles se transmettent, comme les habitudes alimentaires. Lucia Bramer et Charlotte Tid nous parlent de ce patrimoine à plusieurs voix et sur plusieurs générations.
Moi, personnellement, je fais quand même assez attention à ce que je mange. J'évite le sucre au maximum.
Catherine, 57 ans, discute avec sa fille Laura de 19 ans au café potager à Strasbourg.
Ma mère a toujours fait des repas équilibrés, mangeait beaucoup de légumes. Enfin, j'ai exactement ce qu'elle a dit avant. Donc j'ai toujours ça dans la tête. Donc chez moi, j'essaye de faire aussi mes propres repas. Enfin, je suis comme ma mère en fait, exactement.
L'alimentation est un thème sensible, individuel et souvent émotionnel. Qui n'a jamais connu quelqu'un au régime ? Depuis tout petit, nous apprenons de nos parents et adoptons certaines de leurs habitudes alimentaires.
À quel point sommes-nous influencés par nos parents lorsque nous grandissons ? Nous, c'est Charlotte et Lucia, nous avons rencontré Catherine, Laura, Muriel et Bernadette, 4 femmes, 4 générations différentes qui tentent de répondre à cette question.
Je sais que j'ai grandi avec une mère qui fonctionnait assez à l'ancienne. Elle cuisinait principalement avec sa cocotte minute. Donc elle faisait beaucoup de légumes, de choses elle-même. Du coup, quand moi je suis partie de chez elle, elle m'a dit bah voilà, je t'ai acheté une cocotte minute, maintenant c'est à toi de continuer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marquée.
À mon époque, c'était celle où il y avait les mannequins qui étaient un peu à la mode, les années 90.
Muriel, 51 ans, mère d'un fils de 23 ans.
Et après, je pense que ça a quand même influencé l'image qu'on pouvait avoir de nous-mêmes.
Je pense que voilà, on n'a aussi qu'une vie, donc il faut un peu en profiter et pas se bloquer là-dedans. Il faut manger très peu pour maigrir, pour machin. Donc une fois par semaine, un cheat meal, se faire plaisir une glace, mais pas trop lourd non plus.
Et c'est bien quand même de manger à chaque repas. Quoique moi, parfois le dimanche soir, ça m'arrive de ne pas manger du tout. Si le week-end j'ai fait un petit excès, souvent le dimanche soir je mange pas.
Je suis frustrée, bloquée, j'arrive pas à avoir une bonne image de moi, à me dire bah, je suis comme ça, c'est ma morphologie, tant que je suis en bonne santé tout va bien, parce que ce qui compte c'est la santé, mais j'aimerais bien me sentir bien dans mon corps et bien dans ma tête.
C'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, des repas que je prépare, j'essaye quand même de rester dans des choses équilibrées. J'évite la malbouffe en tout cas. Donc c'est ce que j'ai essayé de proposer à mon fils. Et je pense que qu'il en a hérité.
Parlons-en de cet héritage. Par exemple, moi, je me souviens, quand j'avais 16 ans, peut-être j'ai essayé de ne pas manger trop gras. Et quand j'étais chez mes grands-parents, mon grand-père, il a caché du beurre dans mes petits pois. Et à l'époque, ça m'a vraiment frustrée. Mais aujourd'hui, je sais que c'était pour me faire plaisir, en fait. Et il avait tout à fait raison.
C'est vrai que les grands-parents aiment cuisiner assez généreusement.
Et toi, ta grand-mère, elle en pense quoi?
Ben j'avoue, j'en sais rien. Et si on l'appelait?
Oui, Charlotte.
Oui, mamie. Ça va?
Ça va.
Je voulais savoir comment ça s'était passé dans son assiette étant plus jeune, surtout dans les années 1950.
Au point de vue nourriture, déjà, j'ai été élevée à la campagne avec des parents qui avaient une ferme. On a beaucoup mangé le plus naturel possible, c'est-à-dire les légumes du jardin, le lait frais de la vache, tous les produits laitiers qui en découlaient. On a beaucoup été élevés comme ça, c'est-à-dire assez sainement, je crois. Moi, ce que mes parents faisaient, moi, je l'ai bien repris, si tu veux. Après, ce que j'ai inculqué à mes enfants, c'était quand ils étaient à la maison, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ont suivi les mêmes règles. Ma maman à moi, elle cuisinait beaucoup, la grand-mère aussi, alors c'est peut-être que ça se transmet.
Alors eux, à leur époque, le rapport au corps avait l'air d'être différent. Cette pression des régimes que nous connaissons toutes, ça existait?
Ah non, déjà à l'époque, on ne faisait pas de régime. Je crois que maintenant, je ne m'en préoccupe pas tant que ça, mais si je vois que je prends des fois un kilo ou deux, et ben, écoute, le soir, au lieu de manger presque un repas normal, et ben, je restreins un peu, tu vois.
Pourquoi, mamie? Parce qu'on s'en fout de prendre un ou deux kilos. Tu les perds pourquoi?
Mais je les perds parce que... Pourquoi? Parce que c'est parce que je suis trop serrée dans mes pantalons.
Ce sentiment de restriction semble être transmis à n'importe quel âge, mais mamie Bernadette a bien compris une chose.
Moi, la nourriture, pour moi, c'est un plaisir de manger quand même.
Et est-ce que nos deux spécialistes des mythes auraient quelque chose à rajouter?
Carrément, parce qu'en fait, dans les contes et légendes, il y a pas mal de repas de famille qui finissent assez mal. On a notamment des bails à base de cannibalisme et de parents qui mangent leurs enfants.
Oui, c'est un interdit dans la vraie vie qui est très souvent transgressé dans la mythologie. Par exemple, la vieille sorcière de Hansel et Gretel qui engraisse les enfants pour mieux les déguster, ou encore dans La Belle au bois dormant.
Mais attends, mais dans La Belle au bois dormant, il y a des cannibales?
Ah oui, dans le conte d'origine, la belle d'Oche est une ogresse qui a très très envie de grailler ses petits-enfants. Quand son fils, le prince charmant, part guerroyer avec le seigneur voisin, elle saute sur l'occasion. Elle cherche d'abord à manger Aurore, sa petite fille, qui a le même prénom que sa mère. La reine mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Ah, madame !» dit le maître d'hôtel. « Je le veux !» dit la reine. Et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. « Et je la veux manger à la sauce Robert !» Le maître d'hôtel s'en va donc remplir sa mission à contre-cœur et se prépare à trancher en rondelles la petite Aurore, mais il se rend vite à l'évidence, il en est incapable. Il décide alors de remplacer la chair d'enfant par de la chair d'agneau et l'ogresse n'y voit que du feu. Elle exige aussi de manger le deuxième gamin, puis sa belle-fille, la belle au bois dormant. Différentes personnes, même technique. Le maître d'hôtel sert du chevreau et de la biche et emboucane l'ogresse, ni vue ni connue. Sauf qu'un jour, elle se rend compte du subterfuge et là, elle est vénère. Elle sort sa plus belle marmite et prépare un bouillon saveur crapaud et serpent dans l'espoir d'y jeter toute la smala qui commence à lui taper sur les nerfs. Mais heureusement, comme dans tous les contes, le héros viril débarque sur son beau cheval blanc pour sauver tout le monde. Sauf son ogresse de mère qui, elle, meurt, oupsie.
Et c'est là qu'on voit que le mythe de la belle-mère toxique ne sort pas de nulle part. C'est un sujet très sérieux qui est même abordé par une doctorante de l'université Paris Diderot, Esmeralda Mouton, dans une thèse consacrée au cannibalisme dans la littérature. Elle remarque que le caractère monstrueux de l'ogresse découle de deux transgressions gravissimes à son rôle attendu de belle-mère, et plus généralement de femme. Alors, premièrement, elle essaie de tuer les enfants dont elle a la garde, au lieu de les pouponner comme elle le devrait. Pire, elle cherche à s'en nourrir alors que c'est à elle de les nourrir. Et deuxièmement, elle délègue son rôle nourricier à un homme, et c'est parce qu'elle fait preuve de paresse en refusant de faire la cuisine qu'elle est dupée et que les enfants s'en sortent.
Il n'y a que des histoires de femmes qui mangent leurs enfants ou il y a aussi des hommes?
Alors, ça arrive aussi aux hommes, ou en tout cas aux dieux grecs, mais dans leur cas, ce n'est pas si grave. Dans le cas de l'ogresse ou bien des sorcières des contes, elles sont des monstres, malfaisants, qui mangent des enfants pour assouvir un besoin primaire, bestial. Mais dans le cas de Cronos, par contre, la démarche est réfléchie. Donc Cronos est le roi des titans, qui sont les dieux primordiaux. Il a 6 enfants, qu'il avale à mesure qu'ils viennent au monde, parce qu'il ne veut pas que l'un d'eux devienne plus fort que lui et le détrône. Mais pour le 6e, la mère, Gaïa, en a marre. Elle cache le dernier-né et enveloppe un rocher dans un drap que Cronos avale. Quelques millénaires plus tard, Zeus est devenu grand et fort. Il éclate son père pour se venger de sa maltraitance, lui ouvre le ventre, délivre ses frères et sœurs et prend sa place au sommet de l'Olympe.
Ok, donc les pères mangent leurs enfants pour conserver le pouvoir, c'est quand même un peu monstrueux. Connaissant Zeus, j'ai comme l'impression que l'histoire va se répéter, non ?
Exactement. Sauf que dans le cas de Zeus, c'est un souverain légitime, et tout ce qu'il fait est donc juste et sage. Mais dans son cas, ce n'est pas son enfant qu'il dévore, mais sa femme enceinte, Métis, la déesse de la sagesse et de la ruse. Encore une fois, il ne le fait pas par plaisir ou pour rassasier un appétit bestial, comme dans le cas de l'ogresse, mais pour un motif tout à fait rationnel. Une prophétie a prédit que l'enfant né de son épouse le détrônera. Du coup, il avale sa femme et accouche lui-même de son enfant, Athéna, qui sort de son crâne, bon, il donne un peu de sa personne, et comme l'enfant est né de lui et non pas de Métis, il lui est loyal. Conclusion, quand c'est le roi des dieux qui dévore son épouse et lui vole son rôle de mère, c'est un move de génie.
Ou de monstre.
Maintenant, il faut passer au sujet qui fâche. Ceux de l'apparence, du corps, des vêtements et du sport. Vous vous souvenez, dans les années 2000, comment la mode a décidé un beau jour que le seul corps qui vaille la peine, c'était celui des supermodèles, 1m80 pour 50 kg. Parce que moi, oui, et surtout, surtout de cette étrange mode du jean taille basse, des régimes à n'en plus finir et des injonctions au sport, tout le temps et partout. Alors le jean taille basse, est-ce qu'il fait vraiment son grand retour? Camille Aguilé et Tara Abilak sont allées chercher des réponses à ces questions qui fâchent.
You guys are fucking ruining all the work my people put in for you. We put the avocado on the toast. And you know how you're trying to repay us? By bringing back low-rise jeans, I will kick you in your twat. Do you know how hard we worked so that you wouldn't have to do fucking sit-ups anymore? That was us. Look at me, I'm wearing just one jean right now. I want higher jeans, not lower jeans.
La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Kacey Balcham, une humoriste anglaise qui n'en revient pas que le jean taille basse soit de retour après que sa génération se soit battue pour que les plus jeunes n'aient plus à faire d'abdos. Le taille basse, vous vous souvenez ? C'est ce jean qui faisait fureur il y a 20 ans, porté par des icônes comme Christina Aguilera, Paris Hilton ou Britney Spears. Ah, les Y2K, ces fameuses années 2000 avec strass à gogo, des couleurs qui brûlaient les rétines et le ventre à l'air en toute saison, pour celles qui, ouvraient les guillemets, pouvaient se le permettre. Comme Kacey Balcham, on pensait que le low-rise était une relique du passé. Si l'on regarde Vogue ou le look de Bella Hadid, force est de constater qu'il est de retour. Mais le jean taille basse avait-il vraiment disparu ces 10 dernières années? On a posé la question au sociologue de l'art et de la mode, Alain Quemin.
J'ai l'impression qu'il n'est jamais complètement parti. Alors c'est le... Ou alors ce qu'il faudrait dire, peut-être plus justement, c'est le retour du jean taille hyper basse. Et on préfère les vêtements qui laissent le corps plus libre. Et le pantalon à taille basse est quand même beaucoup plus agréable à porter que le pantalon à taille haute.
Alors pourquoi le low-rise n'est-il pas accueilli avec enthousiasme, au point que le magazine Elle titre « Que vous le vouliez ou non, le jean taille basse est de retour ». Il faut croire qu'il n'a pas que des fans. C'est le cas de Lily, 21 ans.
Personnellement, c'est le genre de jean que je déteste.
Je me sens pas du tout à l'aise dedans. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que ça met en valeur la partie qui me complexe le plus. Donc, c'est le bas de mon ventre. J'ai l'impression que la ceinture, elle vient vraiment s'insérer juste en dessous de ce bourrelet, en fait. Et que ça me le fait ressortir constamment.
Le jean taille basse est très révélateur du rapport au corps perçu comme idéal. Par le passé, il a été associé à l'image de corps mince affichée par la grande majorité des magazines. Ou par des mannequins, comme Kate Moss, surnommée la brindille, et à qui on doit l'expression « rien n'est plus délicieux que d'être maigre ».
Il y a un moment, on a trouvé que c'était peut-être un peu dangereux. Vous voyez, le taille basse n'a pas forcément eu bonne presse, mais on voit quand même qu'on y revient, parce que c'est la fascination pour la minceur dans nos sociétés. Quoi.
Je me suis orientée vers des skinny, en fait, quand j'ai grandi, que je suis devenue un petit peu moins ronde et que je me sentais plus à l'aise, je me sentais bien dans ces pantalons-là et j'aimais aussi l'image que ça renvoyait de moi.
En fait, le jean, pour pouvoir être porté comme un trophée, il doit quand même nécessiter une certaine forme de discipline. Le beau jean se mérite.
Il se mérite, mais à quel prix ? L'heure de gloire du jean taille basse a coïncidé avec une augmentation des troubles du comportement alimentaire des adolescentes et adolescents britanniques entre 2000 et 2009. Serions-nous donc condamnés à reprendre goût au cocktail explosif à base de jean hyper taille basse, hanches saillantes et ventre plat ? Pas si sûr, si l'on écoute l'avis de plusieurs acheteuses.
Si je mets des jeans, ça va être des baggy et plus je suis confortable dans mes vêtements, mieux c'est.
Je préfère les jeans taille basse. Je ne me suis jamais mise aux jeans taille haute parce que je ne trouve ça pas confortable du tout quand on s'assoit.
La dernière robe que j'ai achetée, la robe longue noire, c'est un bonheur. Elle est longue, donc je suis super bien. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'être dans un pyjama toute la journée.
Je ne vais pas forcément mettre un truc où je sais que je ne vais pas être confortable dedans. Justement, le confort, c'est important.
Taille haute, jupe, leggings, robe. Au final, la question n'est pas tant celle du modèle, mais de la liberté de choisir le vêtement qui nous sied le mieux. Le coup de projecteur sur le jean taille basse n'est peut-être pas une si mauvaise chose. C'est l'occasion de constater qu'en une dizaine d'années, les corps et les régimes alimentaires se laissent moins modeler par le jean, ce corset des temps modernes. On est plutôt optimiste avec des figures comme l'actrice et activiste britannique Jamila Jamil, qui le dit mieux que personne.
Stop shaming people about their body, stop shaming people about their age, stop shaming people about their symmetry. Just let a bitch live.
Mélissa Herman pratique l'haltérophilie depuis 20 ans. À 35 ans, cette Alsacienne a dû diminuer sa pratique après la naissance de ses deux filles. Mais au-delà de la fonte et des barres soulevées, la discipline se passe surtout dans l'assiette, avec son lot de contraintes. Loris Rinaldi et Milan Busini l'ont rencontré au club d'Aubernay, dans le Bas-Rhin, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg.
Let's get it started in here.
And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
Oh, regarde là-bas, tu penses qu'elle soulève combien ?
Alors là, aucune idée. Je sais pas du tout, mais plus que moi déjà. Ça doit pas être bien compliqué. Attends, de toute façon, on va lui demander.
Là, il y a 35 kilos, c'est une barre de 15 kilos. Donc les féminines ont une barre de 15 kilos et les garçons, ils ont 20 kilos. Mon prof de sport en 3e, il avait intégré l'haltérophilie dans son programme. Et donc il a fait intervenir l'ancien coach qui était ici à Aubernay. Quand il a vu les capacités, il m'a demandé si je voulais venir une fois m'entraîner sur le club d'Aubernay. Donc je faisais de l'athlétisme juste à côté, donc je me suis dit à la place, j'irai une fois et puis j'ai direct accroché. Le côté explosif, c'est ce qui m'a le plus plu. Quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai laissé de côté un peu le côté performance-compétition que j'avais beaucoup avant. Hein. 2014-2015, je faisais donc à l'arraché. J'étais à 59, j'avais arraché 59 kilos. Et à l'épaulé jeté, j'avais épaulé jeté 77. À l'époque, j'étais nationale. On va voir si plus tard j'arriverai à reprendre ou pas.
Tu serais capable toi de t'entraîner comme ça ?
Difficile de répondre. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que je serais incapable de tenir une diète. Surveiller tout ce que je mange, ne pas faire d'excès, c'est mort.
Ah ouais, oublie ta carrière d'haltérophile alors, parce que tout se passe dans l'assiette.
Bon déjà c'est un sport de catégorie de poids. Tout le monde n'a pas le même niveau, donc on ne court pas avec une moins de 49 kilos avec une plus de 64, enfin voilà. Plus la compète va se rapprocher, plus en fonction du poids de corps qu'on fait, il faudra qu'on varie notre alimentation. Forcément, les protéines sont importantes chez nous, On a besoin de force, les muscles ont besoin d'énergie, donc on va chercher aussi les protéines. Tout ce qui est viande, viande blanche essentiellement, on va la retrouver aussi, tout ce qui est type fromage blanc, c'est assez important, le poisson qui ont pas mal de protéines aussi. Le matin, j'avais toujours mon fruit, mon fromage blanc, j'avais mon petit pain grillé complet. S'il y a des soucis de poids de corps, là effectivement on va faire attention, on va être plus sur des légumes verts. Ça peut être très contraignant.
Avoir un régime particulier, penser à chaque aliment dans son assiette et devoir les cuisiner, c'est une sacrée contrainte, surtout quand on ne vit pas seul.
Plus les compétitions approchent, plus on va essayer peut-être de se faire des repas un peu à part. Mais sinon, on essaye quand même, par exemple, moi on va faire du poulet, c'est assez classique. Elle, on va leur rajouter une sauce, moi ce sera sans sauce. Il y aura toujours un petit légume vert, une petite portion de légumes. Pas toujours évident, mais on essaye.
C'est quand même marrant parce qu'elle est beaucoup plus musclée que les femmes qu'on a l'habitude de voir dans les pubs pour les salles de sport.
J'avoue que souvent, ce sont les mecs qui ont des gros bras, comme si les meufs pouvaient uniquement faire du cardio et des squats.
C'est vrai qu'en règle générale, on va avoir effectivement les femmes qui veulent plus forcément développer le côté fessier, diminuer au niveau des cuisses, s'entretenir, avoir une certaine forme physique, alors que les hommes, en majorité, ils vont plus chercher de la masse musculaire et prendre. Mes parents ont eu du mal aussi à accepter que je fasse de l'haltérophilie. C'est un sport masculin, ils avaient peur que je me développe. Dans le club, franchement, il n'y a pas eu de souci. Ils avaient déjà quelques filles, très peu au début, mais il y en avait quand même déjà dans le milieu. Donc il n'y a vraiment pas eu de souci, j'ai été très bien intégrée dans le club. Les regards extérieurs, c'est différent.
Mais en fait, elle en pense quoi, Mélissa, elle, avec ses filles?
Peut-être qu'un jour, une de mes filles fera de l'haltérophilie avec moi.
C'est mon deuxième date ce mois-ci, j'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois.
Salut, c'est toi Léa?
Ouais, c'est moi, enchantée.
T'es encore plus belle que sur les photos.
Merci. Il va arrêter avec ses disquettes. Du coup, tu m'avais dit par message que tu bossais dans une start-up, c'est ça?
Oui, alors pour être plus précis, je travaille dans la digitalisation numérique. Et c'est vrai que ça peut paraître un sujet un peu...
Bonsoir les amoureux, qu'est-ce que je vous sers?
Je prendrais bien une pinte de tripe ou un bon pastaga, mais j'ai peur qu'ils me prennent pour une grosse alcoolo après. Je vais prendre un verre de vin rouge, s'il vous plaît.
Et lequel?
Bah, tu peux choisir pour moi.
Putain, mais j'y connais rien, moi, en vin. Je te conseille le Pinot Gris, il est excellent.
Alors ça, par contre, c'est du vin blanc, monsieur.
Ah, bon, tu vas prendre du vin blanc.
Ça la fout mal de refuser, il a l'air de tellement pas s'y connaître. Ouais, ça ira, merci. Et toi, tu prends quoi?
Une triple.
C'est noté.
Merci.
Merci.
Donc, comme je te racontais, ma start-up, c'est surtout une aventure humaine et j'ai vraiment du plaisir à travailler avec mes collaborateurs.
Et voici le verre de vin pour madame et la bière pour monsieur.
Merci.
Bon, bah santé!
À nous!
L'angoisse.
Est-ce que vous voulez manger quelque chose?
Ah, très bonne idée, si on se grignotait quelque chose.
Moi, j'ai pas faim, merci, mais vas-y.
La miss est au régime avant l'été, et monsieur voudrait peut-être manger un truc?
Si je prends un burger, je vais m'en foutre de partout. Je vais prendre une entrecôte bien saignante et des frites, s'il vous plaît.
Comme ça, on fait un aïoli maison à tomber. Est-ce que ça vous va?
Parfait!
Ah bah, comme par hasard, monsieur prend de la viande. Et bonjour la laine.
Donc ce sera tout?
Remettez-moi une pinte de blonde.
Et moi, je veux reprendre aussi un truc à boire, mais je sais pas encore quoi. Je me sens déjà un peu pompette, je vais peut-être passer au soft. Pas le coca, ça fait rôter. Le sirop, ça fait un peu gamine quand même.
Je peux vous recommander notre ginger beer. Toutes nos clientes en sont folles.
Parfait, mettez-moi ça, merci.
C'est pas aphrodisiaque le gingembre?
Et voilà pour vous.
Merci. Je peux te prendre une frite?
Ouais, vas-y. Comme je te disais, ma start-up se développe hyper vite à l'international.
Tu peux pas arrêter son monologue un peu? Puis par la bouche pleine, ça me dégoûte.
J'avais dit oui pour une frite, c'est la 7e qu'elle me prend. C'est chiant, pourquoi elle en a pas commandé?
J'ai une envie de pisser d'un coup, mais comment je vais faire? Si je laisse mon verre, j'ai peur qu'il me mette un truc dedans. Mais en même temps, emmener mon verre aux toilettes, c'est un peu chelou, non? Je vais aux toilettes, je reviens.
Ok. Pourquoi elle emmène son verre? C'est cringe.
Je peux vous encaisser, monsieur?
Oui, par carte, s'il vous plaît.
Non, on va faire moitié-moitié.
Vous devriez profiter, mademoiselle. Il est galant et c'est de plus en plus rare de nos jours.
Mais quel macho.
Ouais, en vrai, on a passé un super bon moment. Moi, ça me dérange pas du tout de payer.
Bah, moi aussi, mais en vrai, je vois pas le rapport. C'est mieux de partager. Tenez, je vous donne ma carte.
Bon, moi, ça m'arrangeait que vous payiez tout d'un coup, mais si c'est comme ça...
J'ai payé le reste, du coup.
Merci, monsieur.
Merci.
Bonne
Merci.
Soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Bon, maintenant, il faut conclure.
Moi, je vais rentrer.
T'es sûr? Tu veux pas que je t'accompagne?
Non, t'inquiète, j'habite juste à côté.
Bon, bah, bonne nuit, mais préviens-moi quand t'es arrivé.
Ouais, pas de soucis. Salut.
Salut.
J'ai une dalle avec ces histoires. Allez, je vais me prendre un bon grec avant de rentrer.
Et on remercie nos deux comédiens improvisés, Cyprien Durand-Morel et Juliette Viennot. Cet épisode désastreux nous montre que même ce qu'il y a dans notre verre est sujet à controverse. C'est dingue ça, même boire est devenu problématique. La bière serait-elle plus virile que le vin? L'alcool doit-il être l'apanage de l'homme? En étant réduites, nous les femmes, à se contenter de cappuccino et de thé vert pour le restant de nos vies. Julien Rossignol, Lucas Salvatore, Camille Ganchabrol et Christina Genet sont allés chercher des réponses, les uns au café et les autres au bar.
Deux expressos, s'il vous plaît.
Alors là, il est 9h au Café Montmartre. On est au pied du pont du Corbeau à Strasbourg. La salle est pleine, que des hommes. Les deux seules femmes présentes servent le café. On aurait presque l'impression qu'une femme seule au comptoir à boire un espresso, c'est vulgaire.
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire ?
Alors là, quelque chose, je ne comprends pas.
Attends. Laetitia, ça fait 2 ans qu'elle travaille là. Pour elle, d'habitude, c'est du 50-50. C'est d'ailleurs ce que confirme une étude IFOP de 2018. 88% des hommes et 79% des femmes consomment régulièrement du kawa. Bon, ok, ils boivent tous du café, mais est-ce qu'ils ont le même palais? Chez Omnino, une micro-brûlerie strasbourgeoise, Camille a remarqué des petites différences de consommation.
Les hommes, ils vont plus aimer les cafés un peu plus serrés, un peu plus courts, ou en tout cas, ça va moins les déranger.
Donc vous êtes en train de nous dire que peut-être l'amertume est plus, on va dire, privilégiée par les hommes que les femmes, ou des choses comme ça?
Ouais, là, alors chez nous, pas forcément l'amertume, mais le côté un peu explosif ou un peu vif du café, quand on a un café qui est plus concentré, on va dire. Je dirais peut-être que parfois ça dérange moins les hommes, mais on a des femmes qui adorent aussi ce type de boisson.
Et toi Julien, t'as commencé quand à boire du café?
Alors il y a encore un an, je tournais au chocolat chaud, mais je me suis dit c'est bien mignon, va falloir devenir un homme, donc je me suis mis au café.
Tu seras viril mon kid, tu y seras ta puissance masculine.
Alors Julien, rassure-toi, c'est pas toi qui as un problème avec ta virilité, c'est un héritage culturel qui t'a été transmis par des années et des années d'influence. Tiens, regarde au cinéma, que ce soit le charismatique Marcello Mastroianni dans Divorce à l'italienne en 1961, Roger Moore alias James Bond en 1973, De Niro dans Il était une fois en Amérique en 1984 ou encore Kevin Costner dans Danse avec les loups en 90, ils ont tous joué des scènes, une tasse de café à la main.
Marcello, where are you?
Une puissance masculine revendiquée et renforcée par les publicités télévisées des grandes marques. Autant le dire tout de suite, Romina, qui est derrière le comptoir du Café Bretel à Strasbourg, elle, cette approche, ça la laisse carrément perplexe.
Ouais. Bon, personnellement, moi, je trouve ça... on a dépassé ça, je dirais, mais visiblement non. Mais je trouve que, oui, globalement, c'est quand même encore assez véhiculé, les trucs, un café fort pour un homme fort, et puis les trucs plus délicats pour une femme. Donc, personnellement, j'adhère pas trop à cette vision de la chose quand même. Donc, il faudrait un peu évoluer.
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau.
Et pourtant, quand tu vois la dernière pub d'Elonghi, tu te dis waouh, le chemin qui reste à parcourir est encore long. Brad Pitt sur sa belle moto qui parcourt toute la côte californienne pour aller chercher, avec ses belles lunettes de soleil, son café en grain, qui rentre dans sa super villa et qui se fait un magnifique expresso. Ouais.
Ça va suffire alors ?
Oh, on se calme. Il faut quand même souligner que Nespresso, dans sa dernière pub, a fait appel à la comédienne Camille Cotin pour camper un rôle assez humoristique aux côtés de Jean Dujardin et Georges Clooney.
Camille ?
Jean ?
Unbelievable.
Alors, coup de com' ou véritable avancée ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui encore, des marques utilisent le corps des femmes pour vendre leurs produits. Des poses sensuelles, des gros plans sur leur bouche, tout y est. Autant dire que le chemin est encore long, mais avant de révolutionner tout ça, c'est l'heure de la pause café.
Bon, mais apparemment, il n'y a pas que dans la tasse que le café se conjugue au masculin. La production, elle aussi, est très genrée, mais ce n'est pas une fatalité. Amjad Alouchi, est-ce que tu peux nous éclairer ?
Bien sûr. Le monde du café, on ne va pas se mentir, c'est un monde de bonhommes. Entre 75 et 85% des fermes de café du globe sont gérées
par des hommes. Même constat d'ailleurs dans le milieu de la torréfaction, hein, qui est largement dominé par la gente masculine. Et pourtant, les femmes représentent plus de 70% de la main-d'œuvre dans les champs de café. Elles ont donc les rôles les moins gratifiants et aussi les moins bien rémunérés de la chaîne de production, malgré leur présence absolument indispensable à la récolte. Je vais vous parler, moi, d'une initiative qui essaie de rééquilibrer un petit peu cette balance, c'est le café de femmes. Alors, j'en vois venir, café de femmes, café de gonzesse, c'est quoi ça encore? Il est moins corsé? Pas du tout. C'est un café de spécialité tout à fait comme les autres et donc de qualité. Il n'est pas fait pour les femmes, il est fait par les femmes. Bon, sans grande surprise, ce sont surtout des torréfactrices qui le mettent en valeur, et il y en a assez peu. J'ai pu creuser le sujet avec deux d'entre elles en France, Charlotte Robert qui est à Lyon et Lénaïque Dilasser qui travaille à Guy Primessac en Bretagne. La Lyonnaise, elle me parle d'un café pas plus doux mais plus engagé. Depuis le lancement de son activité il y a cela 4 ans, elle met un point d'honneur à ne travailler qu'avec des femmes partout dans le monde. La Bretonne, quant à elle, dit avoir une passion, le café, et un engagement, le féminisme, forcément. Les grains colombiens qu'elle torréfie sont produits par une coopérative gérée par des entrepreneuses colombiennes. Donc le café de femmes, c'est un parti pris assumé qui amène aussi son lot de contraintes. Trouver des productrices dans un monde de producteurs, ça demande de la patience et du travail en plus. Charlotte Robert parvient à proposer quand même 8 origines différentes à sa clientèle. Tous ces cafés, qui viennent d'Indonésie, du Brésil ou du Kenya, sont produits par des femmes. Et sur son site, d'ailleurs, elle présente les histoires personnelles et trajectoires professionnelles des productrices avec lesquelles elle travaille. L'experte, elle est occupée toute l'année entre sa boutique et son atelier où elle travaille seule. Et elle doit faire confiance à ses fournisseurs pour lui trouver les perles rares aux quatre coins du globe. Et dans certains cas, ça peut prendre beaucoup de temps. Elle a mis 2 ans et demi à trouver une productrice kenyane et pas moins de 4 ans pour pouvoir se fournir en café indien. Mais le jeu semble en valoir la chandelle. Pour les productrices d'abord, le café de femmes leur donne accès au marché européen qui représente 33% de la consommation mondiale en café. Ces revenus ensuite leur permettent d'accéder à des formations qui leur sont complètement hors de portée lorsque ce sont des hommes qui possèdent les exploitations. Avantage donc pour les consommateurs, car qui dit productrice mieux formée dit meilleur café en tasse. Lénaïque Dilasser va encore plus loin, elle me dit que les femmes, par nécessité, par besoin de faire leurs preuves, s'investissent encore davantage dans leur ferme pour proposer du café de meilleure qualité et mieux concurrencer les fermes qui sont tenues par des hommes. Les deux torréfactrices sont catégoriques, la cause est juste et la clientèle est réceptive. Charlotte Robert estime que 20% de ses clients environ choisissent son café pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes. Et elle compte d'ailleurs parmi ses clients une librairie féministe parisienne qui a sélectionné ses grains spécifiquement pour cette raison. En effet, du grain à la tasse, les femmes, ici comme ailleurs, se réapproprient le café et en font un véritable outil de lutte féministe.
Merci Amjad. Alors ça tombe bien, parce que moi personnellement, je compte pas abandonner le café, ni la bière d'ailleurs, on va en parler. Et tant qu'à faire, autant qu'elle soit brassée par des femmes.
On savait déjà que la femme était l'avenir de l'homme. La femme serait aussi l'avenir de la bière.
En fait, la femme avenir de la bière, c'est une façon de parler. La plupart du temps, on la retrouve derrière le comptoir à servir ses messieurs ou comme faire valoir sur des affiches quand ce n'est pas en tenue commercialement attirante.
Ça, c'était le journaliste Gilles Chavanel au salon Eurobière à Strasbourg en 1999. Comme beaucoup, il semble avoir oublié que la bière, à la base, eh bien, c'est une affaire de femme.
Et même le symbole de la fécondité. D'ailleurs, jusque dans les années 50, en France, on vendait de la bière nourricière dans les pharmacies. Pleine de vitamines et de sels minéraux, elle aurait en fait enrichi le lait maternel.
Mais c'est surtout que c'est à la force de bras de femmes que ce breuvage est né. En Mésopotamie, où les premières traces de bière ont été retrouvées, ce sont elles qui l'ont brassée. Une tâche domestique dont elles ont su tirer profit. Le problème, c'est que ce business a commencé à devenir un peu trop lucratif.
Et ça, ça intéressait les hommes. Sorcières, tentatrices impures, femmes trop indépendantes pour l'Église catholique, beaucoup de brasseuses ont fini sur le bûcher pendant l'Inquisition. Plus question de fabriquer la bière, au fil du temps, elles se sont retrouvées reléguées à la mise en bouteille.
Mais depuis quelques décennies, les micro-brasseries sont de nouveau en plein essor, et avec elles, les brasseuses.
Je vois pas pourquoi il y aurait plus d'affinité de la part d'un homme que d'une femme pour fabriquer de la bière, en fait. C'est effectivement, je pense, beaucoup d'idées reçues, peut-être, qui font que les femmes se dirigent moins vers cette activité.
Elle, c'est Johanna Baghdadi. En 2014, à 28 ans, elle a cofondé sa micro-brasserie BAT à Lorvasser dans le Bas-Rhin. Désormais, elle la gère seule. Sa spécialité, les bières à base de plantes de cueillette. Une production artisanale qu'elle estime à 250 hectolitres par an.
Soulever des sacs de malt, transporter des fûts, décharger des camions, brasser la bière n'est pas de tout repos. Rien d'impossible pour les femmes, dans un milieu qui reste encore majoritairement masculin, Johanna s'adapte.
Moi j'ai réfléchi à aménager les choses pour que ce soit possible, quoi. Je trouve pas ça absolument horrible d'avoir une activité physique au quotidien. Je vois ça même comme un plus, je m'éclate des fois à porter des fûts.
Si Johanna maintient que son métier est ouvert et inclusif, les réflexions et comportements inappropriés n'ont pas disparu.
C'était pas lié au monde de la brasserie, mais plus à certains fournisseurs de matériaux hein, qui se demandaient qu'est-ce qu'une femme vient à son comptoir demander des câbles électriques ou autres matériaux de construction. Enfin, moi, j'ai senti vraiment le truc, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là ? Elle y connaît rien.
Tu veux pas avoir de bière ?
Oh ! Tu bois pas tout, gros tas ! Oh là là, regarde la tête qu'il a, dit ! Il ressemble à son père, il est moche, tiens. On a bien essayé de le placer, mais on n'y arrive pas. Les bières !
Parce que oui, les femmes, elles la consomment aussi, la bière. Bien plus qu'en 1989, quand Rina Müller, seule femme à la tête d'une brasserie française, cherchait à féminiser sa clientèle.
Je crois que nous arriverons avec les nouvelles bières, notamment des bières aux fruits, des bières un peu plus sucrées, notamment aussi à attirer les femmes à la bière.
C'est un préjugé aussi de ma part, de me dire peut-être la bière noire plus masculine, mais pas du tout. J'ai vraiment un public féminin sur celle-là, et c'est souvent la femme qui préférera ma bière torréfiée que les hommes qui resteront, comme dit, un peu plus sur blonde, bière plus légère, on va dire, qui se boit plus que ne se déguste.
Je ne mange que 4 aliments, qui sont le pain, le beurre, le chocolat, le liquide étant la bière.
Des fois, on vient me demander des bières pour des femmes. Je ne sais pas quoi répondre aux gens. Je pense que ce n'est pas vraiment une question de genre, mais vraiment d'habitude alimentaire.
Dans sa microbrasserie alsacienne, Johanna Baghdadi ne brasse pas le genre, mais ce qu'elle aime, les bières aux plantes.
Mais des affaires, vive la bière.
Certains produits alimentaires sont réservés aux hommes, ils apprécient pas trop quand les femmes s'en emparent, mais ce qu'ils apprécient encore moins, c'est quand les femmes font d'eux le produit alimentaire.
Tu penses à quoi exactement ?
Tout à l'heure, on parlait de parents qui se nourrissent d'enfants, là, on parle d'hommes adultes qui se font dévorer par des créatures féminines très séduisantes. C'est un peu le mythe de la femme fatale, mangeuse d'hommes. Elles usent de leur charme pour attirer les hommes et se nourrissent de leur virilité. Par exemple, les sirènes, ces femmes poissons hyper sexy qui séduisaient les marins avec des instruments et des chants magiques pour les désorienter, ce qui fonctionnait généralement très bien, et les navigateurs se fracassaient avec leurs bateaux sur les récifs où ils étaient ensuite dévorés par ces enchanteresses.
Ayant moins dépendante de ces charmes, mais tout aussi dangereuse pour les voyageurs, qui à l'Antiquité étaient essentiellement des hommes, on a la sphinge, mi-femme, mi-chaélée. La version féminine et malfaisante du sphinx égyptien, la plus connue vivait près de la route de Thèbes, en Grèce, et obligeait les passants à répondre à une énigme. Alors, si les hommes donnaient une mauvaise réponse, elle les abusait sexuellement avant de les dévorer, parce qu'il ne faut pas gâcher la marchandise. Oedipe est le seul à déjouer la ruse du monstre et à s'en sortir indemne. Et dans les deux cas, donc le cas de la sphinx et de la sirène, c'est un peu des drama queens, parce que si leur charme ne fonctionne pas sur le héros, comme avec Ulysse dans l'Odyssée, elle se suicide.
Bah évidemment, je les comprends. Si on n'arrive pas à attirer l'attention des hommes sur nos pauvres personnes, la vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue ?
Et même après la mort, les meufs toxiques continuent à les harceler. Dans le folklore arabe pré-islamique, les goulas, qui sont tantôt des morts vivantes, tantôt des démons du désert, hantent les cimetières et attirent les voyageurs, un peu comme les sirènes.
Et attends, on a failli oublier les femmes vampires, des créatures hyper sexualisées qui plantent leurs crocs acérés dans le cou de pauvres hommes impuissants pour leur sucer leur sang.
Oui, encore les succubes.
Je m'en veux de vous interrompre parce que c'est vraiment très intéressant, mais là il faut vraiment qu'on passe à la suite. C'est drôle finalement cette affaire de nourriture. On ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même vachement lié à notre identité sociale. Par exemple, le végétarisme chez les hommes, bah, c'est pas encore ça. Une insulte, carrément, a même émergé pour les désigner. Les hommes soja, les soy boys. Corentin Chabot et Luc Herinx font le topo.
Are you a soy boy?
C'est pas en opposition à l'homme soja, j'en ai rien à foutre de l'homme soja.
L'homme soja, qu'on peut aussi appeler le simp, c'est un homme, on va dire, sans couilles.
Soy boy! Soy boy! What an absolute soy boy!
L'homme soja, soy boy en anglais, popularisé sur les forums en ligne par l'extrême droite depuis la fin des années 2010, cette expression est en fait une insulte qui vise une très large communauté d'hommes. Donc d'abord à destination de ceux qui ont adopté un régime végétarien ou vegan, elle est souvent utilisée par le milieu masculiniste et elle désigne plus largement les hommes qui se revendiquent féministes. Donc Luc, tu as fait quelques recherches sur le sujet, et en fait c'est un mélange d'homophobie et de misogynie, c'est ça ?
Oui, ce terme regroupe tout un tas de choses qui n'ont pas de lien évident entre elles, mais c'est l'insulte ultime dans la bouche des masculinistes. Le soja, en fait, c'est le stéréotype de l'aliment de base, du végétarien ou du vegan, avec le lait ou les steaks de soja, par exemple, en opposition à la viande, symbole viriliste. Donc pour savoir envers qui l'insulte était adressée, par curiosité, je suis allé voir sur le forum jeuxvideo.com, où on trouve énormément de discussions autour du soy boy. Sur l'un des topics, un membre pose la question « C'est quoi un homme soja ?» et quelqu'un lui répond
« C'est un archétype de jeune homme pas viril, lâche, il boit le discours dominant woke, etc. » sans aucune réflexion et n'a aucune valeur. Il veut juste paraître le plus à l'opposé possible de ce qu'il pense être facho.
Qu'est-ce que tu penses que s'en appelle l'homme soja ?
Putain, je suis mort. Déjà, pourquoi l'homme soja ? Ouais. Pourquoi le soja ? On va dire, le soja, il m'a rien fait. Pourquoi le soja ?
Donc l'extrait qu'on vient d'entendre, là, c'est la discussion entre deux coachs en séduction qui se revendiquent masculinistes sur YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est l'argument qui va être développé dans le choix du mot soja.
Dans le soja, après, je suis pas un expert du soja, hein. D'ailleurs, j'en prends pas, j'en mange pas. Le soja, quand on en prend trop, il y a un côté œstrogène. Alors, l'homme, son hormone prédominante, c'est censé être la testostérone, l'hormone de la masculinité. L'œstrogène, c'est l'hormone de la féminité. Donc, c'est pas un problème en soi. Problème quand l'homme, il est trop œstrogénéisé.
Ouais.
C'est un problème.
Trop œstrogénéisé, un mot qui n'existe même pas en réalité, qui dans le sens où il l'entend, voudrait dire trop féminin. Ça repose sur ce qu'il dit, en fait, cette croyance que les phytoestrogènes qu'on retrouve effectivement dans le soja pourraient développer des caractéristiques féminines chez les hommes, comme des seins par exemple. Mais c'est purement un mythe. Toutes les études montrent que le soja n'a absolument aucun effet sur le taux de testostérone chez les hommes.
Donc on est allé voir ceux qui peuvent être associés à ce terme et qui en ont été les victimes. On a d'abord croisé Mathias, végétarien, qui ne connaissait même pas l'insulte et qui ne semble pas plus déstabilisé que ça par elle.
Problème de fragilité, je pense, les mascus, donc voilà, de base, c'est compliqué, donc oui, ils peuvent m'appeler comme ils veulent, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit chez nous.
On a aussi contacté Joseph, parce qu'on savait qu'il est plus exposé sur les réseaux, et voilà ce qu'il nous a dit.
Par exemple, sur Twitter, c'est que moi, j'ai fait 2-3 threads sur la cause animale, et puis il y a forcément des comptes qui sont souvent affiliés à la communauté d'extrême droite, ils viennent chercher un peu des embrouilles, on va dire. Moi, ma description Twitter, c'est que j'ai marqué que j'étais proud soy boy. I'm a proud soy boy, c'est vraiment ce que j'utilise. Parce que je tourne ça en dérision, parce que ça me fait mourir de rire. C'était une bonne réponse de leur dire, oui, bah, je suis soja, puis je suis fier de l'être, puis je vous emmerde.
Donc ce que nous suggère l'insulte d'homme soja, plus largement, c'est qu'il est parfois plus difficile d'assumer un régime végétarien en tant qu'homme. Donc par crainte de se sentir féminisé et même invalidé aux yeux de ses pairs.
Moi j'ai eu des gens, là du coup c'était pas via les réseaux sociaux, c'était des gens en vrai hein, qui me l'ont dit en face que je mangeais des trucs donc, avec des propos homophobes, quoi, des trucs ouais tu manges des trucs de papette, c'est des trucs de pédé. Peut-être que les hommes étaient plus touchés par des appels à la sensiblerie, on n'avait pas le droit de montrer qu'on avait de la compassion ou de la sensibilité envers les animaux. C'était pas quelque chose de pensable, quoi, parce que la viande, c'est viril.
On a aussi rencontré Elliot devant un resto vegan, donc il confirme ce rapport à la virilité.
Dans l'imaginaire, c'est un peu plus mal vu, parce que les hommes sont censés manger des steaks pour avoir des muscles, machin et tout, en plus je suis tout fin, donc forcément, voilà. Là, on fait la corrélation assez rapidement. Oui, là, du coup, la remarque que j'ai le plus, c'est parce que tu manges pas de viande que t'es maigre, tu vois, alors que bah, non, ça n'a rien à voir.
Effectivement, aujourd'hui, de plus en plus de sportifs et sportives ne mangent pas de viande, sans effet sur leur morphologie, à tel point que certains hommes recommandent même de ne plus manger du tout de viande pour devenir fort. On trouve même un manuel du bonhomme viril, titré « Meat is for pussies », autrement dit « La viande est pour les mauviettes », comme quoi même les masculinistes n'arrivent pas à se mettre d'accord au sujet de l'alimentation.
Et pour le mot de la fin, on a décidé que ça serait un cri du cœur. Et on va le laisser à Louise Lavorie.
J'ai jamais connu le plaisir de la grande bouffe, ou du bon petit plat mijoté pendant des heures, ou du resto entre amis. Manger, ça n'a jamais soulevé la moindre émotion en moi, si ce n'est l'ennui. Sauf que récemment, avec une copine, on a décidé de cuisiner ensemble, pour se donner du courage quoi. Et là, mes mains et mes vêtements se sont imprégnés de l'odeur de cuisson. Et j'ai adoré, parce que c'est l'odeur de ma mère. Ma mère, elle cuisine. Et elle cuisine bien. Mais récemment, au cours des dernières années, son rapport à la nourriture a changé, parce que son poids a changé. Après la ménopause, elle a pris une dizaine de kilos, et maintenant, quand elle reprend un petit morceau de fromage, elle se sent obligée de dire « c'est le dernier hein !» Alors moi, j'ai voulu entendre des femmes d'âge mûr, comme on dit, de 60 ans ou plus, me dire que leur poids, elles s'en fichaient. Qu'elles avaient subi bien assez d'injonctions sur leur apparence physique tout au long de leur vie et que maintenant, elles avaient assez donné. Et je voulais les faire écouter à ma mère. Mais j'ai pas trouvé. Soit mes interlocutrices faisaient des régimes, soit elles ne voulaient pas du tout me parler de leur rapport à la bouffe. Puis j'ai rencontré
Marlène
et Solange dans un café de mon quartier. Ce sont deux copines d'enfance. Elles se retrouvent là tous les jeudis pour parler de tout et de rien, mais surtout pas de leur poids.
C'est pas vraiment des sujets qui sont importants. Non. Comme une discrétion, même avec des personnes que vous voyez beaucoup, des copines,
Non. Après la ménopause, elles ont toutes les deux pris quelques kilos. Surtout Marielle, qui a fait un traitement hormonal.
C'était horrible. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Parce que tu te vois au monde. Bon, après, c'est reparti un petit peu. Mais sur le coup, j'avais pris, je sais pas, moi, 8-10 kilos. Mm. Mais énorme. Hein. Puis après, j'ai arrêté. Et puis, donc, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Ça s'est revenu presque à la normale.
Oui, parce que la ménopause, ça a un peu modifié leur rapport à la nourriture.
Je cuisine moins gras. Du sucre, beaucoup moins de sucre. Je prends plutôt des trucs qui remplacent le sucre, la stevia, mais sans se priver, vous voyez, sans être en manque.
Bon, après, si tu fais un gâteau, tu ne mets pas de sucre, c'est plus un gâteau, hein. c'est tout. Hein.
Tu en mets moins. Moi, quand je prends une recette dans un livre,
je réduis
le sucre au moins un tiers.
Mais même si elles font attention, elles ne se font pas avoir par les programmes de perte de poids au marketing agressif qui tourne en boucle les après-midi sur TF1. Mais si vous les connaissez.
Et si on vous disait qu'une gélule pouvait vous aider à favoriser votre perte de poids?
Vous voulez voir les résultats dès la première semaine?
Alors faites comme j'aime, satisfaction garantie.
Kilos réduits.
Vous demandez à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20.
Pour moi, régime, ça veut dire se restreindre.
Oui, voilà.
Et ne pas manger des trucs, ne pas manger du tout.
Comme c'est le régime qu'il y a toujours eu depuis des dizaines d'années, et les gens se privent, il faut le dire, même si on n'a pas l'impression. Ah. Et une fois qu'on l'arrête, pouf, c'est reparti. Hein.
Mais ça peut être obsessionnel pour certaines quand même. Peut-être pour les personnes que je vous dis, des amis à moi qui sont maigres. Je ne peux pas me dire, elles sont minces, pour moi, elles sont maigres. Et je pense qu'elles doivent quand même gérer quelque chose.
Elles ont un truc dans la tête.
Solange et Marielle, elles s'accordent des folies. Mais pas tout le temps, sinon ça ne serait pas des folies. Et Solange a même fixé sa limite personnelle à une taille 38.
Vous voyez, que les vêtements que vous avez du mal à fermer les boutons, c'est un regard sur soi.
Quand vous prenez un peu d'âge, on a du mal à assimiler, on digère moins bien, on brûle moins.
D'où l'importance de faire une activité physique.
Oui, c'est de bouger un petit peu.
Je vais me remettre à la piscine.
T'as raison. Tu nages
mais
la
j'y pense. Mais j'y pense. Hein. Mais j'oublie aussi.
On se couche le soir pleine de bonnes résolutions.
Bon, et dans tout ça, le regard des hommes sur leur corps, est-ce que ça compte pour elles?
Les hommes dans l'ensemble, ils s'en fichent un peu. Dans l'ensemble, hein. À moins qu'ils soient des hommes qui sont portés sur leur personne.
Ou qui prennent la femme comme poupée, pour faire bien. Pour sortir.
Oui, bon, après, quand on prend de l'âge, hein, c'est plus...
Moi, je connais ça.
Et même pas seulement ça, hein, c'est comme tout le monde. Hein, on aime aussi toucher quelque chose qu'on peut encore bien toucher. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, quelqu'un qui a 10 ans de plus que vous, déjà soi-même, c'est déjà très tombant. Alors, pour les hommes, c'est pareil. Hein, ils sont confrontés au même problème que, si on peut appeler ça un problème, hein, si, oui, vraiment.
Mais oui,
la peau qui change, le corps qui change, tout est.
Mais tu vois beaucoup plus souvent.
Voilà, tout est dit. Solange et Marielle sont retournées à leur café, et moi, j'ai un peu réfléchi. En fait, c'était un peu facile de penser que j'allais rassurer ma mère comme ça, en deux coups de cuillère à peau. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent avec l'âge dans le corps des femmes. Les kilos en trop, comme on dit, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Ils viennent s'ajouter à plein d'autres bouleversements, la peau qui ramollit, les rides qui se creusent, la répartition de la graisse qui change, pour l'homme comme pour la femme d'ailleurs. Et vieillir à deux, mes parents finalement, ils s'en sortent pas si mal.
Parfois, du fait de la modification générale de la ligne, etc., j'ai même parfois le sentiment pas désagréable d'avoir une nouvelle femme différente de la précédente. Et des fois, parfois, c'est pas plus mal.
Papa me dit que je suis de plus en plus belle. Donc, quand moi, je me regarde dans la glace et que je me dis, oh là là, là, il y a mon petit ventre voilà, que je voudrais perdre. Là, bon, maintenant, il y a un petit peu de graisse aux cuisses et tout ça. Un petit peu de cellulite, voilà. Et puis, d'un autre côté, ben, quand tu as ton conjoint qui te dit, mais moi, je t'aime comme tu es de toute façon et t'es la plus belle pour moi. Bon, ben, ça relativise les choses. Non, mais c'est vrai, hein, c'est important aussi.
Merci d'avoir écouté ce podcast concocté aux petits oignons par les étudiantes et étudiants de la spécialité presse écrite et multimédia du QEJ. Nos chaleureux remerciements à Iris Dereux et Nora Bouazouni qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce projet et ont nourri nos réflexions. Merci à Baptiste Canda et Isalia Stiefatre qui ont eu du pain sur la planche à la réalisation et à la présentation. Pour suivre d'autres contenus réalisés par les étudiants du QEJ, rendez-vous sur le site QEJ.info.